Tailgate Podcast. Here we go. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, je suis très excité. Non seulement parce qu'on a un excellent match à venir ce soir, ce jeudi, entre les Vikings et les Rams, mais également parce que c'est le grand retour d'un des membres fondateurs du podcast ce soir sur le Tailgate. Je vous prierai d'accueillir chaleureusement Monsieur Alex Simard.
Hey, salut les gars, très content d'être de retour aujourd'hui. Ça fait une couple de semaines que j'essaye de venir, puis là j'ai dit aux gars, j'ai tellement de choses à dire cette semaine, j'ai plein de hot tapes, donc j'avais vraiment pas le choix.
Donc tu arrives avec plusieurs opinions, c'est pour ça qu'on t'appréciait autant dans le Tailgate.
Merci.
Nico, toi, comment tu vas ce soir?
Ça va super bien, puis je suis content que Simard ait décidé de venir cette semaine parce qu'il y a eu un gros trade en début de semaine. Peux-tu nous en parler?
Absolument. Donc avec l'épopée de toutes les blessures qu'on a dans notre offensive cette semaine, cette année, on est allé chercher une nouvelle pièce pour Patrick Mahomes. Comment je vois ce trade-là? Moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis un grand fan des Chiefs depuis l'époque d'Alex.
Personne ne le sait, là.
Commencez pas avec ça, parce que le podcast va prendre une certaine tangente. Donc, DeAndre Hopkins, on a un gars en ce moment qui jouait avec les Titans, qui faisait absolument rien parce qu'il n'y avait pas de corps arrière, les plans de match n'étaient pas dirigés vers lui. Puis on a aussi un gars qui cherche une équipe de série. Je sais pas, ça fait combien d'années qu'il n'a pas fait les séries, ce gars-là. Honnêtement, ce vétéran-là, j'ai pas de doute qu'il va avoir un gros impact dans notre offensive. Au pire, il va jouer slot, il va avoir peut-être une dizaine de targets par game. Moi, pour vrai, moi, je pense que Pat Mahomes va souvent regarder vers lui, surtout que Juju est out cette semaine.
Ouais. Fait
que c'est notre seul receveur, puis Xavier Worthy, on sait très bien qu'il est visé 4 à 5 fois par game sur des longues passes, mais c'est un hit or miss, c'est un Jamison Williams 2.0 pour l'instant. Très content en plus du prix qu'on a payé pour D-Hop. Un cinquième qui peut se transformer en un quatrième si on va au Super Bowl. Fait qu'on a un choix de fourth pour les Titans.
Mm-hmm. Ouais. Moi je pense que ça va vraiment faire du bien à l'attaque des Chiefs cette année. On manque le big play factor un peu. Puis t'as parlé de Xavier Worthy justement, qui est sûrement le gars qu'on a amené pour faire les big play factor. Mais c'est sûr que si c'est ça le receveur qui est lined up, qui a de l'allure, on sait qu'il y a Mekong aussi qui a du speed. T'amènes un gars comme DeAndre Hopkins qui peut manger des targets justement sur des jeux simples le long de la ligne. Ça vaut tellement le jeu pour le reste de l'attaque. Je pense vraiment que ça va bénéficier pour Worthy et même pour Mecole Hardman potentiellement à ce niveau-là. Je pense pas que ça va être nécessairement un game changer. Je pense pas que vous êtes encore plus pour un contender qu'avant, mais je pense vraiment que ça va vraiment varier l'attaque, ça va faire du bien à l'attaque des Chiefs avec ce qu'on a vu cette année.
Juste pour finir sur D-Hop, Nick, je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, je pense pas non plus qu'il va être le centerpiece de notre attaque. Si on parle pas des stats puis pas du contexte, si on parle juste là, du joueur, D-Hop d'après moi assuré, peut-être pas first ballot, mais il y a une bonne candidature pour un Hall of Fame selon moi. Puis c'est un gars qui m'a toujours surpris par ses attrapés contestés. Tu le mets dans une couverture man-to-man, en 1 contre 1, même si le DB est dans ses shorts, il a tout le temps une chance de finir avec le catch. Ça, j'aime vraiment ça. En plus, Mahomes, il se cherche vraiment cette année, je veux dire.
Des safe ends, hein? Des safe ends.
Ouais. C'est ça, fait que je suis fin d'âme avec l'acquisition.
Surtout pour le prix, moi je suis d'accord avec toi de ce côté-là.
Ça vaut la peine d'essayer.
Sinon, parlant de transactions, il y a un autre sujet chaud là, qui est monsieur Cooper Kupp qui joue ce soir. Ça se pourrait qu'il change d'adresse.
Il serait sur le trade block.
Ouais, ça a l'air que les Rams auraient contacté des équipes. Les Steelers sont présentement favoris pour l'acquérir, mais ils ont été favoris pour à peu près 12 joueurs dans la dernière année.
Puis donc,
ils n'ont jamais ramassé personne. Fait que on en pense quoi.
Moi, je veux dire que je pense qu'il y a 3 équipes possibles. 3 destinations où j'aimerais le voir jouer. Cooper Kupp, premièrement, je pense qu'avec ce qui s'est passé dans la dernière semaine, pour ceux qui l'ont manqué, les Bucks ont perdu leurs 2 receveurs, leurs 2 alpha. Chris Godwin pour la saison et Mike Evans pour plusieurs semaines. Je pense vraiment que...
Ah oui, Godwin pour la saison?
Ouais. Puis je pense vraiment que les Bucks pourraient utiliser un gars comme Cooper Kupp avec un Baker Mayfield qui joue du très bon football depuis son arrivée à Tampa Bay. Je trouve que ça flasherait puis ça serait vraiment cool à voir si les Bucks maintenant se considèrent assez contenders pour aller chercher Cooper Kupp. Mais des fois ça finit de même, tu sais, on pense que ça s'en va dans les grosses équipes contenders parce qu'ils ont un tout, puis là finalement, ils s'en vont dans une équipe mid-tier. Fait que ça, je pense que ça serait une bonne décision. Je vous surprendrai pas, je pense, en disant que les Chargers sont une destination. On n'a pas beaucoup de weapons au poste de receveur.
À part Ladd, qui est une recrue,
tu peux pas mettre tout le poste sur ses épaules. Puis Joshua Palmer a pas su se lever cette année avec
vraiment Johnson
la possibilité de le faire. Et finalement, la troisième équipe, je pense que c'est l'équipe qui aurait le plus besoin d'un receveur. Peut-être pas le plus besoin d'un receveur, peut-être pas plus les Chargers, mais les Commanders avec Cooper Kupp,
ah oui,
ça pourrait vraiment être nasty, je pense. T'as Terry McLaurin, qu'on en a parlé dans les derniers podcasts, qui a une très bonne saison avec l'arrivée de Jaden Daniels, puis même a fait bien la semaine dernière avec Mariota, une bonne partie du match. Je pense vraiment que ça... Déjà que les Cowboys qui ont une top 5 attaque cette année, avec Cooper Kupp, je pense vraiment que ça pourrait les amener à un autre niveau, puis solidifier peut-être même la division pour eux cette année.
Mon fit préféré des trois que tu viens de dire, c'est les Bucks. Quand tu regardes un peu le profil de joueurs, Chris Godwin puis Cooper Kupp, c'est les gars qui s'en vont chercher les zones sur le terrain où est-ce qu'il y a personne, qui vont s'asseoir là, puis ils vont réussir à comme trouver comme les trous, je trouve, qui sont assez similaires dans leur style de jeu. Je pense que j'aimerais voir ça. Puis je sais pas si je pense que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais vu que je suis beaucoup là de fanpage là, des Chiefs, j'ai entendu dire que c'était la prime target avant D-Hop au début,
ouais.
Mais que c'est sûr qu'il coûtait beaucoup plus cher.
Ben, c'est ça. C'est là qu'il voulait aller.
Ben, c'est ça.
Apparemment, il demande un choix de 2. C'est pour ça que beaucoup d'équipes.
C'est assez cher à payer. Là.
Faut vraiment que tu penses vraiment croire en tes chances pour le Super Bowl pour donner un choix de 2. Parce que.
Un choix de 2 au draft, c'est un starter.
Ouais.
Mais c'est un bon starter.
Qui était choix de 2 dans les nouveaux receveurs cette année? Y avait-tu Ladd McConkie?
Y a James Polk au pass.
Coleman, c'est un début choix de 2 aussi. Ouais.
T'as ton Rashee Rice qui était pas choix de 2 il y a 2 ans, lui?
Rashee Rice était notre.
C'était pas votre dernier pick de la first round?
C'était notre deuxième choix de deuxième, je pense.
C'est ça.
Soit première ou deuxième,
je pense que c'est deuxième.
Tu sacrifies peut-être
un gars qui est souvent blessé.
Fait que non, c'est sûr que je comprends que le prix devait être fort à payer, mais Cooper Kupp avec les Chiefs, par contre, bon, je te laisse le droit de rêver, Rémi, mais ça aurait été absolument nasty.
Mais moi, je le veux pas. Pour vrai, on dirait que notre... En tout cas, je veux pas commencer à parler comme des Chiefs pendant 20 minutes pendant cet épisode-là, là, mais... On dirait qu'on a fait notre réputation sur des gars qui coûtent pas cher. Tu sais, on a
Hunt,
c'est ça, on a Hunt qui avait même plus d'équipe, qui arrive avec notre bon O-line, il est super bon. On a Mecole Hardman, notre ancien bon joueur qui fait le TD gagnant du Super Bowl. On a Smith-Schuster qui était complètement wash. Tu sais, je veux dire, avec le coaching qu'on a, on est capable de revivre la carrière de certains gars. Puis Moi, je vais tout le temps pour le gars qui coûte le moins cher dans ce contexte-là.
Vous avez des overachievers, c'est ça. Fait que non, je suis bien d'accord avec toi. Ça aurait été une bonne acquisition, mais ça aurait été à voir au niveau du chemistry. Peut-être penser à la dernière petite item que je voulais parler au niveau des news. Brian va jouer donc les Panthers qui affrontent les Broncos en fin de semaine. À voir si il aura appris derrière le Red Rifle. Non.
Moi, je pense qu'il va avoir moins de pression.
Moins de stress.
Parce que maintenant, il sait qu'il start parce que les Gilbertons, on va s'attendre un petit peu à moins de lui.
Il start pas parce qu'il est first round pick, donc il start par défaut. Là, c'est il start parce que c'est à son tour de jouer. Je suis quand même en faveur de ce que tu dis. Sinon, ça n'a pas match de la semaine dernière.
Ouais, justement, je commencerai avec nos takes de la semaine passée sur... Ross, qui était quand même.
Oui, je m'attendais totalement pas à ça. D'ailleurs, on dirait qu'à chaque fois qu'on dit quoi dans le podcast, c'est contre. Les joueurs de Sam nous font mentir, mais une méchante grosse perfo de Ross. Puis les Steelers en général aussi. Puis collatéralement, je sais même pas si ça se dit comme mot maintenant. Mais George Pickens qui en a sorti une grosse.
Ah, mais c'était des drôles de cage qui rebondit sur un gars. Il a joué une grosse game.
Mais là, on remettait tous en de la décision de Mike Tomlin. Finalement, l'oncle Mike a reçu nous montrer que c'était la bonne décision à prendre.
J'ai d'ailleurs un petit quelque chose à dire par rapport à la bataille de carrière chez les Steelers. Les gars, est-ce que vous trouvez ça sain Moi, je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue nationale de football où est-ce que il y a eu un problème de deux carrières qui étaient comme bons les deux.
C'est égal, ouais.
Ça veut dire que l'équipe gagne, ça veut dire qu'on a de la profondeur. Moi, je trouve que c'est un beau problème à avoir. Puis l'esprit de l'équipe, puis on s'est changé des
aussi,
games.
Puis, ouais, ils sont très différents. Fait que il avait parlé de faire jouer. Ouais. Sont des...
je pense juste qu'on est vraiment surpris. On n'a pas vu ça dans les récentes années.
Ouais.
Deux gars qui se partagent un poste de partant.
Parce que souvent, l'équipe,
c'est raison qui me vient en tête.
Ouais.
C'est les Eagles quand ils ont gagné le Super Bowl avec Nick Foles.
Puis mais... pour vrai, je serais vraiment pas surpris que Russ en joue deux bonnes. Puis qu'après ça, le coaching staff trouve que le match-up est meilleur avec Fields. Puis Fields, honnêtement, c'était sur ma bingo card. Ça me fait penser à Tom Brady. Puis Bledsoe quand il
pas de volé le rôle après. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que. Ouais, fait que les Steelers qui ont cook vraiment en prime time.
Contre les Jets qui.
Fait même, on peut parler de
Adams.
On avait quand même bien. Adams. Ça paraît peut-être que ça fait quelques temps qu'il a joué avec.
Ouais. J'ai encore des bonnes.
Sachez confiable aussi. Mais il était visé quand même beaucoup plus que trois fois, mais. Ça va prendre une autre tech la semaine passée, parce qu'on peut parler à un gars qui a pas vraiment passé pris de temps à faire son impact la semaine dernière. C'est Amari Cooper avec les Bills, qui a été un joueur d'impact dans leur victoire.
Gracieux titre de passe de promesse, il a dit qu'il avait pas dit ça, mais en tout cas, on voit très bien sur la bande vidéo que Cooper se demande vraiment quoi faire. Cooper court en ligne droite, reçoit le ballon, drette dans les mains, c'était quand même vraiment, vraiment dog.
Keon Coleman qui a eu d'ailleurs un très fort match aussi sur le jeu dont tu es en train de parler qui a attiré l'attention. Aussi Ray Davis dans le backfield des Bills quand ça se fait un nom en ce moment qui avait fill in pour James Cook lorsqu'il était blessé. Venant encore une blessure de James Cook, c'est sûr que ça va être un des top waiver wire selon moi. Dans les autres matchs que j'ai
fait. On n'a pas vu la lumière du jour pendant 6 à 7 heures. Enfermé avec 3 écrans.
That's football for you. Le match, je pense, c'est le match qui était jusqu'à la dernière seconde.
Et les Kings sont numéro 1.
Moi, oui.
J'ai vu ça passer, on dirait qu'ils sont partout numéro 1.
Je pense que oui.
Ben, je veux dire, on a un corps arrière, Jared Goff, qui en ce moment, je pense qu'il y a. Une 20 passes, des choses comme ça.
22 à 25 en fin de semaine.
C'est ça. Ben voilà, puis deux games d'avant, il a fait une game parfaite. Il n'y a eu aucune incompression. Puis quand que les par rapport honnêtement, puis ils ont des super bons cornerbacks, c'est ça.
Ouais,
vu qu'ils sont bons partout, à toutes les positions, à tous les niveaux, moi j'ai place numéro 1.
Tout ça sans Aiden Hutchinson sur la ligne défensive aussi. Donc, ça fait pencher dans la balance. Pour une des meilleures divisions du football, si c'est pas la meilleure, je pense qu'ils ont une grosse victoire en fin de semaine contre les Texans. D'ailleurs, leur Unis était malade, le casse blanc des Packers, personnellement, j'ai bien
débile
la passe. Par contre, Joe Mixon a encore une forte performance avec 115 verges au sol et 2 touchés. La performance de Tank Dell en l'absence de Nico Collins. 0 réception, 0 verges.
Il est pas comme l'an passé.
Il est sur le donut en fin de semaine.
Mais est-ce que vous pensez
toute
que.
Toute l'équipe est.
Mais oui. Est-ce que vous pensez que parce que 86 verges à CJ Stroud, il a seulement eu 10 en 21, donc à peu près 45% de passes complétées, ça doit être une des pires games à CJ Stroud.
Je mettrais ça sur le dos des Packers, ils sont vraiment forts.
Ouais, vraiment, vraiment forts. Puis même, ils ont 3 receveurs qui ont eu un toucher en fin de semaine. Dante vient de. Autant que c'est difficile. Bon. Regardez la fin de semaine.
Diggs a pas eu une très grosse game, hein, aussi, je pense 5 catchs pour 23 verges. Même si Dell a pas performé, ça veut pas dire que c'est parce qu'un autre était meilleur. Je pense que c'est vraiment.
Performance, je pense que je dois mentionner également les Ravens. Qui ont eu qui m'ont impressionné quand même, je dois dire. Je pensais que c'était particulièrement de la marre. Je pense qu'on va en parler plus
tard. On a un nouveau segment, on va voir. Henry par contre, le sérieux. Je m'attendais, je savais que c'était un bon ajout, mais je m'attendais jamais à ce qu'il soit aussi fort que ça.
Ouais,
il avait genre 25 verges. Il fait une deuxième demi de 140 verges.
Ouais.
En passant, la manière que votre coaching staff manage son utilisateur, qui a dit en conférence de presse, ce gars-là a déjà eu des dizaines de games à avoir 30 touches par game. En ce moment, on lui donne d'autres bons joueurs qui peuvent prendre la relève. Il joue vraiment la carte de la durabilité en ce moment avec.
Just Essel qui a pas du mauvais travail aussi, quand on appelle son nom sur le terrain, honnêtement.
On a aussi un gars qui est méconnu de mettons, de tout le monde. C'est. Keaton Mitchell qui est sa open win. Ouh, ouais, undrafted rookie qui va peut-être être performant.
Qui avait été très bon l'an passé. Ouais. Puis
Il avait fait un ACL pour ça. Sûrement, mais.
C'est en fond cette semaine quand Derrick a compté un touchdown. Lui, là, que tu parles, qui danse. Puis là, lui, il a dit: Bro, I don't dance. Genre. Complètement stoïque. Ce gars-là, il veut aller chercher un ship, man. Il se fout complètement. Ouais, il a une bonne éthique de travail.
Yes. Je tiens à saluer aussi la performance de Marcus Mariota. J'ai parlé un petit peu plutôt des deux touchés par la passe. Tout ça, 18 en 23 par la passe. Et également, les Chiefs qui sont invaincus toujours. Tout qui a l'impact sur leur match cette année. Parce que c'est pas mal plus.
Ou deux phrases. On a probablement la défense dans le top 5 de celles qui coûtent le moins cher de la ligue. On a la défense la plus jeune sur papier de la ligue. Et on a aussi, on peut mettre ça comme on veut, mais ça veut dire que le travail des recruteurs a été complètement excellent.
Et également de votre coaching staff.
Steve Spagnuolo. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, là, mais.
Sûrement du spaghetti.
Il a quitté les Giants pour aller DC. Il a fait DC les Giants, il les a quittés pour aller chez les Giants.
C'est complètement sa troisième ou quatrième année. Avant, on lui a demandé un petit peu moins. Il était pas là sur tous les jeux. Cette année, il court partout. Là. Il est
Fait qu'on va enchaîner. T'avais-tu un petit segment initié cette semaine?
Ouais. La semaine passée, je vous avais parlé de deux matchs à regarder en fin de semaine passée. Où GA contre Texas, donc l'Université de la Géorgie contre l'Université du Texas. Et Texas qui était ranked numéro 1 pendant la rencontre. Par contre, leur carrière, Carson Beck, on a un peu encore une performance un petit peu douteuse avec 180 verges par la passe et 3 interceptions dans ce match-là. Mais Georgia qui se sauve quand même avec la victoire. Et je vous avais parlé aussi de Tennessee qui affrontait Alabama. Et Tennessee qui était ranked 11 et à la fin de carrière de Alabama. Tennessee qui remporte à la maison. Et qui vont sûrement dépasser pour cette semaine Alabama au Red. Des matchs qu'en fin de semaine, on n'a pas des matchs avec des qui vont être fort intéressants tout de même, je crois. Donc on aura deux équipes de la Floride qui vont s'affronter avec The U, Miami, qui vont affronter les pauvres Florida State, qui ont d'ailleurs encore perdu la semaine dernière contre The U. On a parlé plus tôt dans la saison du podcast, mais il est impressionnant à voir jouer, c'est vraiment tout qu'un show, donc à regarder. Mais après ça, 8e et Texas A&M, qui sont 14, donc ça devrait être un bon match également à regarder en fin de semaine.
Des playoffs, tu sais, pour le National Champ, là. Je pense qu'on est rendu à 32 équipes. C'est 16, 12 à dire, là. Mais Army et Navy sont invaincus. Il y a des gens qui pensent qu'ils pourraient faire partie les deux du top.
Hey, imagine Army contre Navy.
Ça serait complètement débile. Ça absolument
vraiment
malade. Cette semaine, il y a moins de grosses games excitantes que. Que la semaine passée, mais il y en a une en tout cas ce soir que moi je trouve qui est excitante avec.
Aussi. Ouais,
personne s'attendait à ça.
De côté.
N'importe quoi pour vrai.
C'est surprenant.
Ouais, ben ça va être un très bon match, je pense. Les Vikings, par contre, avec les joueurs des Rams qui sont comme soudainement tous sur le trade block, des fois ça peut agir comme source de motivation pour des gars qui disent ben regarde,
on est tous ensemble. Parce qu'ils sont 2-4, ils tombent 3-4, c'est pas fini.
Non, c'est ça, mais j'ai entendu des noms, des rumeurs aussi qu'il y avait Stafford en plus de Cup sur le marché des échanges.
Moi je pense que c'est tout du gros n'importe quoi. Je pense que genre leur noyau il est là encore jusqu'à l'an prochain puis, en tout cas.
Mais j'exclus pas la possibilité que les Rams nous surprennent ce soir avec tout leur dog de retour dans l'alignement. Par contre, ça va être leur défense qui va devoir step up contre l'attaque des Vikings. Leur D-line des Rams avec tous des jeunes joueurs là, on a Jared Verse d'ailleurs, c'est qui m'impressionne beaucoup cette saison. Donc à voir s'ils vont être capables de se rendre à Sam Darnold aujourd'hui.
Juste pour terminer pour les Rams, est-ce que c'est dans la première semaine d'activité de cette saison-ci qu'il y avait une partie Rams contre les Lions, puis les Rams en santé avaient complètement surpris tout le monde. Tout le monde disait que les Rams étaient beaucoup meilleurs finalement qu'on pensait, avec Puka, avec Kopp, avec leur bon porteur de
Karen Williams.
Ballon, c'est ça. Honnêtement, moi je pense que l'offense ça peut surprendre ce soir maintenant que tout le monde est en santé. Là. Reste à voir si tout le monde est bien rétabli de ses blessures. Mais je me souviens là, d'une partie en début de saison où on était surpris par l'offense des Rams.
Les Lions avaient gagné en prolongation.
Ben, c'est ça,
26-20 contre les Rams. Donc ça a été. On voit que les Rams en santé, c'est vraiment le jour et la nuit par rapport aux Rams qu'on a connus dans les dernières semaines, donc ouais. Vraiment hâte de les voir jouer ce soir.
Moi aussi.
Sinon, un des match-ups que j'ai encerclé sur mon calendrier de la fin de semaine, ça serait les Bills contre les Seahawks. Je pense que les Bills ont sorti une grosse performance la semaine dernière, vont vouloir continuer à se prouver qu'ils sont une des meilleures équipes de l'AFC, et les Seahawks qui sont en train de roll ces temps-ci après quelques performances un petit peu en dessous des attentes. Donc je pense vraiment que ça va être un bon match à ce niveau-là.
Les gars, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais avec la down year des 49ers, ben, là, sûrement que beaucoup vont me dire à cause, en grosse partie, des blessures, oui, mais aussi à cause du mauvais jeu à Brock Purdy dans les deux derniers matchs, trois picks là, contre les Chiefs. Est-ce que, en fait, moi je pense que les Seahawks, la tête de la division est complètement ouverte, puis ce n'est que up to them.
Moi, je pense que c'est la leur à perdre.
C'est la leur à perdre, exactement. Je pense que les Niners en ce moment, c'est une des saisons où est-ce que ils rouvrent la porte pour qu'un poursuivant les dépasse puis aller chercher de la division. Comme tu dis, c'est up to them to lose it.
Exactement.
Même les Cardinals, je serais même pas surpris de les revoir.
Faire du bruit, ouais.
Être proche,
être sur la fringe en fin de l'année.
Je penserais pas, mais on sait jamais.
C'est sûr qu'ils ont de la misère, on dirait, quand ils jouent contre les meilleures équipes, mais sinon, c'est quand même une bonne équipe de football. Là.
Parlant des Cards, on n'a pas le choix d'en parler. Ils jouent contre les Dolphins, puis les Dolphins.
Effectivement, c'est
un grand retour que personne n'aurait cru. On pensait que c'était une season. Career
ending injury. Toi qui seras de retour au poste de carrière partant en fin de semaine. Je pense qu'il y a plusieurs fantasy managers.
Tyreek Hill qui va dire dans les médias Start me,
I'm a break the bank. À voir, mais c'est sûr que c'est très encourageant. Puis peut-être Waddle aussi, ça peut avoir un impact positif sur lui. Est-ce que vous croyez que les Dolphins vont come out firing on all cylinders, puis ça va être un raid offensif? Vous pensez que ça va être...
Je pense que les gars vont avoir faim, mais moi c'est vraiment Tua que je me demande. C'est mon point d'interrogation. Il va-tu être bon?
Mais il va être capable de les nourrir.
La défense aussi, j'imagine, elle va se présenter.
Moi, les gars, je trouve que les Cards, ils sont très durs à jouer contre. Puis en ce moment, la cote sur Bet365, ils ne sont pas affiliés avec ce podcast. Le little disclaimer, la cote pour les Cards est de 2.75.
Hein? Je trouve ça plus surprenant, moi.
Moi aussi. Surtout que Kyler Murray, en ce moment, est super bon. Il a une bonne saison. Ouais, c'est sûr que j'ai... Disons que si j'avais de l'argent à mettre sur quelque chose, je pense que j'irais peut-être avec les Cards. Pour un money line, là, mais peut-être que je
dis ça. Ça pourrait être un bon pick dans un sneaky parlay. Encore, on a parlé beaucoup des Chiefs aujourd'hui, mais les Chiefs affrontent les Raiders en fin de semaine.
Leur
arch nemesis.
Il n'y a pas beaucoup de rivalité là dans les
c'est toujours des matchs
sérieux.
Absolument.
C'est les Raiders, c'est la dernière équipe à avoir battu les Chiefs.
Ouais, mais après ça, les Chiefs les ont genre battu 5 fois de suite.
La dernière défaite des Chiefs, c'est contre les Raiders, c'est une game bizarre, il me semble.
Des games qui come down to the wire pour je sais pas quelle raison. J'ai l'impression entre les Raiders et les Chiefs, peu importe les deux sont classés où dans le classement, ou peu importe
la toujours.
C'est toujours des games serrées, des games avec bien de l'émotion, puis bien des revirements de situation.
Je préfère cette réalité-là, mettons, que contre les Chargers. Je trouve que contre les Raiders, souvent, c'est des meilleurs games.
Ben oui, les Chargers.
Un petit
pour ceux qui ont Kareem Hunt en fantasy, c'est un no-brainer, là, vous le startez tant que Pacheco n'est pas de retour. Qu'en passant, là, les analystes pensent que ça s'en vient après le bain. Pacheco sera pas là encore là, jusqu'à fin novembre. Là, genre,
je suis pas mal sûr qu'il reviendra pas avant les fantasy players.
Ben, c'est ça. Donc, Hunt en ce moment est un RB1 en fantasy avec la O-line.
Exact.
Sinon, une game qui pourrait être une grosse game et qui en sera peut-être pas une, c'est la game des Bears contre les Commanders.
C'est justement
le show numéro 1 contre le show numéro 2.
Ben, il jouera pas, Daniel.
À date, il n'y a pas l'air d'un gars qui va jouer. C'est vraiment dommage. Ça va être fun à regarder.
Il sera pas. Il va être hors du
line-up. Ben, il est pas sûr encore. Il est blessé au coach.
Je suis allé chercher en mesure d'urgence aujourd'hui dans mon fantasy Bo Nix.
Qui va cook les pauvres Panthers.
Ouais, pour aller remplacer JD 5, mais effectivement, ça a été vraiment cool le match-up à voir, mais Mariota, ça peut être intéressant aussi, voir comment il va jouer, surtout après son apparition un petit peu spéciale dans la série carrière sur Netflix.
Ben, leurs offenses ont fait 40 points cette semaine.
Ouais, 40 points contre les Panthers.
Let the numbers speak.
C'est ça. Exactement. Puis si on passe peut-être au match-up qui va être prime time pour la semaine à venir, dimanche soir, toujours excitant, une rivalité dans la NFL, les Cowboys contre les
Niners. Dubaï, on va voir si l'attaque va être plus dynamique.
Ouais. Plusieurs joueurs semblent mécontents chez les Cowboys, donc sauront-ils parler et répondre par la bouche de leur canon en fin de semaine?
C'est pareil, le Monsieur Ezekiel Elliott va sortir une game de 150 verges.
Oh! Hey! Je sais même pas s'il est capable de courir 150 verges, je suis un peu soufflé d'une traite.
Il n'y a pas une course en haut de 10 verges cette année, je suis allé voir ça.
Sacrifice.
Puis là, les gars, là, faudra pas que Kazi va prendre sa retraite. Faudra pas se rappeler de, t'sais, comme de cette année, puis elle d'avant. Si on regarde un highlight de ces 5 premières années, là, le gars, pour vrai, c'était le RB1 ou le RB Top 5 pendant plusieurs années consécutives. C'était
là. Ils sont faits dans la.
Ah oui, c'était tellement
dans la marmite.
C'était tellement fun d'avoir joué.
Ouais, il était un très bon joueur, effectivement. Il a essayé de finir sa carrière sur cette saison.
Un mini commentaire que j'aimerais dire, j'ai hâte de voir les Jets jouer contre les Pats. Très belle occasion pour les Jets de se remettre sur le chemin de la victoire contre une défense poreuse. Si Aaron Rodgers s'en va perdre contre les Pats, je pense que c'est à Foxborough en plus. Là, on va commencer à se poser des sérieux
questions. Il serait rendu 2-6. Fait que...
ouais. Puis en plus, là, contre les Pats, tu peux pas perdre ça. Là. C'est une des top 3 des pires équipes ever. Là. Tu peux pas perdre ça. Puis Bengals contre les Eagles,
ça va être un bon match important.
Ça va être un gros match. Parce que les Bengals sont en train d'essayer de prouver à tout le monde qu'ils sont encore des contenders avec une attaque par la force complètement déjantée cette année. Par la force, excusez-moi. Fait que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner.
Donc, les Eagles ont quand même joué un bon match malgré ce que
c'était. Un très solide match en fin de semaine. On va aussi en parler dans le nouveau segment. Contre mes pauvres Giants qui, pour finir la strat de match prime time, affronteront lundi soir les Steelers de Russell Wilson à Pittsburgh.
Genre de duel qu'on n'aurait pas pu dire ça en début de saison, mais ça va vraiment m'intéresser de voir ça.
J'ai bien hâte de voir si Russ va être capable de poursuivre la performance qu'il a fait la semaine dernière et voir si les Giants peuvent somehow bounce back de ce que c'est cette saison.
Danny Dimes, il avait eu une bonne pause, de genre 2-3 matchs.
Ouais,
mais là,
deux, trois matchs.
Là, on dirait qu'il est revenu le gars de la première game.
Ça a super bien été. Puis là, ouh là,
Malik, il devait se ronger les ongles aussi.
Hey, Malik, il pointait les joueurs open. Il renait ses routes. Là, il était sur le terrain, puis il pointait Slayton qui était tout seul. Pour que Danny Dimes, il le voit.
Moi, je vais le dire tout de suite, je pense pas qu'avec la défense des Steelers, je pense que les Giants ont aucune chance. Ben, je suis vraiment désolé, mais je vais pas le dire tout de suite.
La défense des Steelers, je me demande si c'est pas la meilleure avec celle des Chiefs de la Ligue.
Ben, je me demande si c'est pas un des alignements complets des Steelers dans les meilleurs qu'on a vu dans leurs 5 dernières années.
Non, ça fait longtemps.
En plus, Nadji est redevenu bon, c'est pas trop...
Ils sont vraiment rendus...
Ils jouent bien cette année, vraiment.
Puis ça fait du bien avoir des Steelers bons, man.
Ben,
je m'ennuyais. Pas quand t'es dans cette division-là, mais je m'ennuyais du temps où les Steelers, là, genre, ils étaient mis, là, pis c'était peut-être une équipe tough à aller.
Ben, ils sont devenus.
C'est ça, pis là, ils sont back, pis on avait avec besoin des Steelers.
Leur coach des unités spéciales de 70 ans.
Oui, c'est un sacré dog, lui.
Il est frais. Alors, on va en profiter pour enchaîner tout avec la question, les questions du public. En parlant des Giants, on a une question. Est-ce que les Eagles sont back avec leur victoire écrasante versus Danny Dimes?
Est-ce que la question provient de Liam Vandenberg?
Malheureusement, je peux pas dévoiler les noms en ondes.
Bon, ben, Liam, pour ta question, oui, they are back. Très grosse performance la semaine passée. Leurs dogs sont de retour. Je pense que ça va donner de la confiance à tout le monde. C'est Saquon qui a presque fait son record de verges au sol, au MetLife. C'est ça. Je pense vraiment que les gars sont back. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais peut-être que l'adversité qu'ils ont eue depuis en début de saison, ils sont à dire de tout ça. Et je pense que la division est encore à leur portée.
Moi, je suis pas prêt à dire s'ils sont back tant qu'on n'arrive pas au game hivernal, parce qu'on a vu ce que ça a donné l'an passé. On a fini la saison avec 5 défaites en 6 matchs.
Ouais.
Dont les Giants 2 fois. Me semble.
Non, une juste la dernière.
Une fois, ok. Ouais. Fait qu'honnêtement, moi, tant qu'on n'est pas rendu proche des séries, là,
je pense que le bateau peut couler encore cette
absolument,
année.
Absolument, absolument. Ben, c'est ça que ça a fait l'an passé. Puis, exact. C'est ça.
Parfait.
Alors, j'enchaîne avec une deuxième question. Où placeriez-vous Caleb Williams dans votre QB ranking? On parle bien en mode fantasy ici, non pour gagner des matchs. Overall, là. On parle overall. Fantasy.
Personnellement, je veux le mettre top 12.
C'est ce que j'allais dire top of my head. Là.
Parce que.
Moi, je serais prêt à mettre top 10.
Tu serais prêt à mettre top 10. Je veux sortir son box score.
Mettons, je le prends avant Gino et Dak Prescott.
Moi aussi, juste parce que.
Puis même Mahomes.
Avant Gino.
Non, je sais pas.
Moi, je pensais qu'il y a un peu plus d'upside, juste du fait qu'il est juste un peu plus mobile.
Il court quand même une cinquantaine de verges.
Il peut sortir une game de 75 verges n'importe quand par la course. Il l'a fait cette année, je pense, d'ailleurs.
Il n'a pas encore marqué de toucher par la course, par contre.
Je pense pas. Non. Mais si on parle, par contre, des touchés par la passe, moi, c'est la grosse progression que j'ai vue avec lui cette année. Là.
Ouais.
Il a commencé la saison, il trouvait pas ses receveurs. T'sais, il y avait 3 weapons comme receveurs. Puis qu'est-ce qui est arrivé avant leur bye week? Keenan Allen, 2 passes de toucher, je pense. Ils ont réussi à comme établir une certaine communication. Puis je pense que ça va juste continuer. Pour vrai, un 2 passes de toucher par game, je trouve pas ça impossible pour Caleb. Ce qui le placerait aussi top 10 à top 12, je pense.
C'est présentement. On s'entend que c'est moving forward, on le place où c'est pour le reste de la saison. Parce que c'est sûr qu'un début de saison slash début de carrière un peu plus difficile. Mais effectivement, je suis vraiment du même avis que toi, avec le football qu'on a vu jouer avant le bail, je serais vraiment confiant. Puis maintenant, je pense qu'il s'en vient comme
top 12, je pense, c'est plus réaliste que
top 10. Parce
qu'on a
quand même des bons
10 à 12, j'aurais dit.
Si je mets ça aussi en perspective, si tu joues dans une ligue à 10, moi je le start dès qu'il joue contre une mauvaise defense. Mettons que tu l'as dans ton équipe. Ouais. Je start contre
cette semaine contre
s'il joue contre les Chiefs, contre les Lions, blablabla, ben là j'y pense 2 secondes. C'est peut-être que je vais prendre quelqu'un sur les waivers à sa place, mais dès qu'il joue contre une équipe bof, je pense qu'il mérite le start.
Ouais. Alors on va enchaîner avec une autre question. On a eu beaucoup de questions cette semaine. Les fans sont en feu. Alors pour une 10-man league, je dois starter 2 flex. J'ai le choix entre Waddle, Debo, McMillan, c'est le receveur des Bucks pour ceux qui ne savent pas, Cooper, Amari Cooper et Najee Harris. On a un peu parlé, on avait un consensus pour
un joueur.
Le deuxième, on est tous pas d'accord. Alors
on va se prononcer chacun sur le deuxième joueur qu'on mettrait. Mais le consensus qu'on a eu par rapport à un joueur, c'était Najee Harris. Najee Harris, tu en as glissé un mot tantôt, Rémi. Connaît une très bonne saison cette saison. On sait qu'il avait été incommodé par les blessures pas mal dans les dernières saisons. Plusieurs disent qu'il jouait blessé la majorité du temps. Mais cette année, avec une attaque des Steelers qui est un peu plus énergétique, je dirais, Najee, ça y en a vraiment profité.
Ouais.
Et puis, pour mon deuxième joueur, je vais y aller pour Jalen Waddle. Et je pense que les Dolphins vont connaître une bonne attaque, un bon match à l'attaque avec le retour de Tua. Donc, je vais aller pour Jalen Waddle.
Moi, j'attendrai une game de Tua avant de commencer à starter Waddle.
Je
pense que Tyreek Hill est un locked-in, parce que Tyreek Hill, c'est un top 5 pick du fantasy cette année. Je veux dire, tu peux pas ne pas le start avec la saison qu'il y a eu l'an dernier. Mais pour Waddle, je suis encore un peu incertain. C'est quand même une très bonne question. Toi, Nick,
moi, j'hésite entre Debo et Amari Cooper, mais je tranche avec s'il est en santé, bien évidemment, parce qu'il est 1e/2. Debo, plus d'Ayuk. Je pense vraiment que Debo, je le verrais faire un toucher cette semaine. Il joue contre les Cowboys. Je pense que ça pourrait être un shootout en plus, un peu, cette game-là.
Ouais.
Fait que, ouais. Puis bon Cooper, choix. Je l'aime, mais j'ai l'impression que c'est comme un peu un. Il a toujours été un peu un boom or bust à chaque semaine. Fait que j'aime pas ça, mais les jours de même, je trouve ça risqué.
Effectivement.
Surtout contre les Seahawks, là, contre
Witherspoon. Ouais.
Contre Woolen et Witherspoon de Big W.
Ouais, c'est une bonne tertiaire assiette.
Ouais, c'est ça. Puis si tu posais encore des questions sur Najee, là, écoute, l'an passé, il splittait les touches avec Warren. Cette année, il y a presque tout le volume par la course. Juste par le volume, automatic start.
Puis la chance de toucher contre les Giants, c'est pas mal.
Ouais, il va y avoir des red zone opportunities.
Ouais, exact.
Alors maintenant, on va enchaîner. C'est un peu relié avec la question sur Caleb. On s'est fait demander notre top 5 fantasy pour le reste de la saison, mais pour les QB seulement. Et fait que ça, on a quand même eu un bon consensus à part pour le cinquième qu'on
exactement.
Est comme...
un peu comme la question précédente, on avait un choix qu'on hésitait. Pour le cinquième, moi je vais y aller avec Jalen Hurts. Pour une raison.
Finalement, j'ai le même que toi.
Puis c'est le touche-pouche.
Ouais.
On l'a vu la semaine passée. Ils vont pas encore pas de l'utiliser, les Eagles. Ils vont faire le touche-pouche. Puis Jalen Hurts va avoir des touchés par la course beaucoup plus facile que des touchés par la passe pour certains autres carrières. Donc ça va être ça.
Surtout que le touché par la course, il vaut 6 points en fantasy. Hein. Ouais. C'est extrêmement valuable.
Ouais, exact. Est-ce que vous aviez d'autres choix pour le 5 ou si
non, on s'entend
pas mal? Non, moi je suis d'accord avec ça.
Après ça, on est allé pour Jordan Love des Packers.
Ouais, ça c'était une surprise pour certains. Mais...
Surtout que c'est pas le joueur qui utilise le plus ses jambes. Mais on a parlé de leur attaque par la passe tantôt qui est complètement impressionnante. J'ai qualifié dans le passé de Air Raid quand les Packers jouent. Donc Jordan Love. Et numéro 3, on y va peut-être un des meilleurs carrières de la ligue, Josh Allen.
Ouais. Je suis d'accord.
Après ça, au numéro 2, on y va avec Jaden Daniels. Parce que peut-être même s'il joue pas en fin de semaine, on sait qu'est-ce qu'il peut faire maintenant avec ses jambes autant que son bras sur le terrain. Et le numéro 1, à la grande surprise de personne, après sa
performance, c'est
Lamar Jackson.
Le running back.
He's a running back. Fait que, ok. Puis là, on va enchaîner avec la dernière question. Encore un format top 10, mais là, on arrondit à top 5. Alors, on se fait demander notre top 10 des. Plus grande déception jusqu'à maintenant dans la ligue. Là, on a juste fait un top 5 parce que là, on manquait d'idées.
Je vais commencer avec le numéro 5. Donc, on a décidé unanimement de mettre Christian Kirk. Je vous explique pourquoi. Au début de l'année, on nous vendait ce gars-là partout sur les réseaux sportifs comme étant le gars qui allait reprendre le rôle d'alpha, de receveur numéro 1 dans l'offensive à Trevor Lawrence. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Mais on a un dog, là. Son nom c'est Brian Thomas, une recrue qui se pointe dans une équipe dysfonctionnelle puis qui vole le poste de receveur numéro 1. Ça, en passant, c'est exceptionnel. C'est très rare qu'on voit ça. On peut voir que Marvin a pas eu cet impact-là à son arrivée. Lui, il l'a eu. C'est sûr que l'offensive est un petit peu moins profonde, là, mais Kirk, en ce moment, absolument... presque invisible sur le terrain. On a 4-5 targets vers lui par game. Il en pogne 3-4. Moi je pense qu'il est unstartable jusqu'à ce que Thomas se blesse. Ouais. Kirk en ce moment.
J'ai de la misère à starter vraiment beaucoup.
Moi j'ai aucune confiance, même en flex. C'est sûr que nous on parle beaucoup là, pour des ligues de 10 à 12 personnes. 10 personnes, écoute, il n'y a aucune chance. Mais ligue à 12, 13, 15, là par contre je pense que Kirk pourrait.
Avec le numéro 4, on est allé avec running back dont on pensait qu'il allait avoir un énorme workload cette année, jouant dans une attaque qui était peu prometteuse. On est allé avec Ramondre Stevenson, finalement ça marche vraiment pas.
Il échappe des ballons en plus.
Puis les pattes sont de la misère à compter les touchés, donc ça lui fait vraiment mal au niveau de ses fantasy points. En numéro 3, il vient de se blesser pour la saison cette semaine, mais je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a Brandon Ayuk qui a été un gros flop en
fait.
Après sa grosse signature, on
anticipe. Plus de 20 millions par année.
On anticipe une grosse saison. Et puis, Daniel Cole, il fait des prestations de 20 plus points la dernière saison, a un match en haut de 20 points cette saison. Et après ça, aucun autre match en haut de 10. Mmh.
C'est absolu. Ça fait vraiment mal. En plus, il y a des games là-dedans que Debo n'a pas joué. Là. Fait que c'est très décevant. Est-ce que c'est Purdy? Est-ce que c'est Ayuk? Une combinaison des deux, je sais pas. Mais côté fantasy, complètement déçu par Ayuk.
Exact. On revient avec un running back ensuite. Dans la même attaque que Christian Kirk, on parle de Travis Etienne. Plusieurs disent qu'il est accommodé aussi par des blessures. Mais c'était quand même un choix très primé au repêchage de fantasy dans la dernière saison. Et là, Tank Bigsby soudainement qui sort de
fort
et qui veut le poste. Donc le volume pour Etienne a vraiment diminué. Puis surtout par la passe, je trouve. Là, fait que ça y fait vraiment mal cette année. Et on était quand même assez d'accord pour notre numéro 1.
Roulement de tambour.
Sam Laporta des Lions de Détroit
qui était projeté de Thaïlande numéro 1 par tout le monde
qui
est même
rendu un waiver.
Est-ce qu'il n'y a pas plus de points que lui en fantasy?
Ben oui.
Le average a 7.1 points.
Je pense que Kelsey est à 8.7.
17 targets cette saison. C'est
17 targets.
C'est rien.
Pas réception target.
Il y a 17 targets.
14
réceptions. 14 catch.
D'après moi, ça, c'est, fort, hein? C'est le cinquième
wild. Un touché, ouf. Il en faisait un ou deux games l'année passée, facilement.
D'après moi, c'est le cinquième receveur de l'équipe en termes de catch. Fait qu'il est vraiment pas le pas en tout. Je pense que les schemes sont juste pas orientés autour de lui.
Exact. Donc, c'était ça pour notre top 5 de déception. Évidemment, il y en a. Vous pensez probablement à plusieurs autres déceptions dans votre alignement, mais je pense qu'on a bien cerné les principales de cette année.
Fait que sinon, on pourrait enchaîner avec notre nouveau segment. Fait que ça va être le Dog of the Week. Alors, on a choisi chacun un joueur qui nous a impressionné, qu'on a trouvé que c'était un dog cette semaine. Fait que, Nick, je te laisse commencer pour le premier dog de l'histoire du Lottery.
Le premier dog de l'histoire des dogs, j'y vais à contre-cœur avec Saquon Barkley cette semaine. L'ancien fan des Giants, pour moi, est triste en ce moment dans mon petit cœur, mais quelle performance de Saquon. Je crois que vous l'avez tous vu, une énorme performance au MetLife Stadium la semaine passée par la course. Il était d'ailleurs à quelques verges de battre son record par la course, mais il a décidé de dire à Nick Sirianni, non,
ouais, c'était au moins
embarque,
ça, c'était bon.
Embarque les autres gars à ma place, à I'd rather see them young guys heat, pour le citer. Donc, mais une excellente performance contre les Giants.
Moi, je vais vraiment vous surprendre. Puis, non, ils ont pas gagné cette semaine, mais moi, mon dog of the week, c'est Baker Mayfield. Puis, je vais vous dire pourquoi.
Il est assez pris de la zine sur le banc?
Non, vraiment pas.
Okay.
Baker Mayfield, on l'a toujours reconnu comme un gars avec un désir de gagner et avec une attitude irréprochable. L'équipe perdait par je sais pas combien de points. Il restait 3-4 minutes. Il continuait là, de faire des immenses jeux pendant toute la fin de game, pendant le dernier quart.
Ouais. Il n'a jamais lâché.
C'est ça. C'est la définition pour moi de ne jamais abandonner. Puis au football, si, mettons, on avait réussi à avancer un peu plus vite avec un autre short kick, tout peut arriver, je veux dire, si, mettons, il avait réussi à forcer la prolongation, ça aurait été incroyable, tout comme un moment de football. Donc, bravo Baker de ne pas avoir lâché.
Alors, je vais terminer avec le mien, sans surprise et vraiment pas biaisé, pas du tout biaisé Dog of the Week. Most career game with 5 touchdown pass and 0 interception. Tom Brady 8, Drew Brees 8, Lamar Jackson 3e avec 5. En 84 départs, tandis que les autres en ont 2,86 et 333. Il y en a plus, il y en a autant que Aaron Rodgers, Peyton Manning puis Big Ben. Alors mon dog of the week, MV3, Lamar Jackson.
Lamar Bellé!
Je pense qu'il s'en va sur une de ses meilleures saisons. Même si c'est pas meilleur que ça.
Je sais pas, il est vraiment rendu un meilleur passeur. Je sais pas c'est quoi qui se passe.
Mais t'as-tu vu comment il envoie genre
avec son coude,
une passe super haute, on the dot.
On a aussi le réveil de Rashad Bateman qui l'aide un petit peu.
Absolument.
Et Mark Andrews aussi qui se réveille.
Alors, on terminerait ça avec un mot de la fin de notre invité Simon ou.
Est-ce que tu veux me dire?
Ah, écoutez les gars, moi là, cette semaine, j'ai été très très. J'ai eu comme une remise en question avec mes multiples ligues de fantasy. Je commence à trouver que les blessures, ça fait chier. C'est impossible d'être bon en fantasy avec des blessures.
Il y a un gros pourcentage de chance en fantasy.
C'est ça. Mais après ça, j'ai repris sur moi. J'ai repensé à mon amour pour le football. Puis j'aime tellement ça l'automne, les gars. Je suis tellement content. Il y a un podcast, il y a des dimanches de football. On passe notre journée devant la télé. Maudit que c'est le fun. Vive l'Amérique.
Let's go. Alors, on vous souhaite tous un bon match de football ce soir et en fin de semaine. À plus.